Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là, fidèles à ce week-end des experts et après le jardin. Et avant de retrouver tout à l'heure la forme, la santé avec Christian Ricciat, avec qui nous évoquerons le tabac, puisque je crois que c'est demain la journée mondiale sans tabac. On évoquera évidemment ce fléau avec les pathologies liées au tabac, mais aussi le vapotage qui devient quelque chose de véritablement à la mode. Est-ce que c'est dangereux? Et puis l'impact de la nicotine sur l'organisme. On évoquera aussi bien sûr le Covid-19 et on évoquera aussi la peau, comment la protéger avec tout ce soleil, les conseils de Christian Ricciat tout à l'heure entre 8 et 9. Mais dans l'immédiat, c'est la maison et c'est avec Christian Pessé. Bonjour Christian.
Eh bien bonjour mon cher François.
Alors Christian,
oui.
Dans un instant on va tout dire sur les abris de jardin.
Oui, on va faire un point sur les abris de jardin parce que c'est le grand moment de la vente de ce type de produits, notamment en grande distribution. Et parfois, il y a un certain optimisme des vendeurs sur la simplicité d'installation et sur les questions de réglementation. Donc, ça m'a semblé important d'en parler, donc de développer ce sujet.
Oui, peut-on installer un abri de jardin sans autorisation? À partir de quelle taille, etc. On verra ça dans quelques minutes. Et puis, notre dossier de ce samedi, ce sont les petits bassins et les petites piscines.
Question. Oui, parce que c'est une tendance constante du marché de la piscine. On va en parler tout à l'heure avec Joël Pulinx, donc de la fédération. C'est vraiment un boom. Et donc, évidemment, on a redécouvert l'environnement de sa maison. On a progressivement repris possession des espaces verts. Et on se dit qu'il y a peut-être une possibilité de mettre une piscine. Alors, on a toujours l'image du bassin olympique, ou tout au moins de la grande piscine. Mais de plus en plus, eh bien, on va s'apercevoir qu'il est possible d'installer des petits bassins. Alors, il y a le petit bassin gonflable. On connaît pour les gamins et des fois un peu plus grand, mais il y a véritablement aussi des équipements plus sophistiqués, plus haut de gamme. On va en parler tout à l'heure avec Joël.
Et c'est tellement agréable que de se rafraîchir dans ce type de bassin quand il fait chaud. Vous avez des questions sur ce sujet dès maintenant, 3216, l'appli RMC Direct Studio. Tiens, vous imaginez ou vous prévoyez installer ce type de bassin dans votre maison, dans votre jardin, profitez-en. 3216, l'appli RMC Direct Studio, et vous nous laissez votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Et puis le coup de cœur de Christian, tout à l'heure on aura l'occasion d'y revenir. Merci d'être là, c'est parti pour ce week-end des experts et on attaque avec Yves qui nous attend. Bonjour,
oui, bonjour.
Yves. Bonjour Yves, bienvenue.
Bonjour François, bonjour Christian.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors, voici ma question. Il y a une vingtaine d'années, j'ai acheté une maison de vigneron, là, à côté de Béziers.
Oui.
Et puis, nous avons fait de gros travaux, c'est-à-dire que au rez-de-chaussée, il y avait la partie vigneronne avec les cuves, etc. Et la partie au premier étage, la partie habitation. Les cuves ont été démolies. À la place, il y a eu un plancher chauffant, etc. J'ai isolé les murs avec du placo et du polystyrène. J'ai carrelé le sol avec les plinthes qui vont bien tout autour. Et depuis, disons, 2 ou 3 ans, nous avons la visite de fourmis en permanence. La moindre fissure, le moindre petit trou, ces dames s'invitent à l'intérieur.
Oui.
Alors j'ai pensé que peut-être qu'elle se loge dans le placo et le polystyrène.
C'est pas impossible.
Et puis vous savez, c'est la guerre tous les jours. Alors mon épouse, quand elle voit apparaître ça, ça y est. Et cette année, de surcroît, il y a des fourmis ailées.
Hein? Ah oui, d'accord.
Elles volent pas, mais enfin bon, elles sont typées d'ailleurs.
Ah mais elles vont voler, vous inquiétez
elles
pas.
Elles vont voler, oui.
Oui, ça va.
Au bout d'un moment.
Oui, hein. C'est ça.
Si elles volent, elles pourront partir.
Alors, je pense que vous avez déjà presque répondu dans la question. C'est toutes les fissures, toutes les inf- en fractosité, tous les trous dans le, dans la maison. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, systématiquement, avec du mastic, déjà tout reboucher. Alors, je sais bien que c'est difficile parce qu'en plus, elles ont tendance à être capables de percer ce genre de choses. Alors, bon, je sais que Patrick, tout à l'heure, a répondu en jardinier à la oui. question. Bon, alors, moi, je veux dire qu'il a parlé de pièges qui existent aujourd'hui et aussi la possibilité de trouver la fourmilière. Mais d'après ce que vous me dites, c'est très difficile parce qu'il y a cette solution que Patrick évoquait tout à l'heure de trouver la fourmilière et tout simplement de la détruire avec de l'eau très chaude. C'est une des solutions. Alors, sinon, en matière de produits, je dirais, parce que maintenant, vous savez, on va plus mettre il y a encore quelques années, on empoisonnait quand même les fourmis au cyanure, ce qui est évidemment une solution peut-être pas très écologique aujourd'hui.
Un peu extrême.
C'est un peu extrême. Bon, pour la belle-mère, ça peut marcher, mais pour les fourmis, vaut mieux éviter. Alors il y a tout un tas de remèdes de grand-mère, moi que je connais. Bon, mais en tout cas, l'un de ceux qui marche très bien et c'est un produit très polyvalent, c'est le bicarbonate de soude. Hein. C'est très répulsif. Sinon, il y a aussi un cousin, la craie. Hein, c'est aussi un produit que les fourmis n'aiment pas du tout. Je vais pas vous dire de mettre du marc de café partout chez vous parce que c'est pas très esthétique. C'est aussi un produit qu'elles n'aiment pas. Mais la première véritablement des solutions, c'est vraiment d'essayer de faire la chasse aux petits trous, aux fissures. Et là, c'est du boulot. Mastic silicone, hein, je pense que c'est ce qui
est. Oui, parce que ça, c'est surtout le pourtour de la maison.
Ouais.
Alors, soit à l'intérieur, dans la véranda, ou soit à l'extérieur, la pergola, etc. Il y en a partout.
Alors, à l'extérieur, le remède de Patrick qu'il faut suivre, là, c'est essayer de trouver la fourmilière. C'est un jeu de piste, hein. Et puis de mettre de l'eau, de verser de l'eau très chaude, c'est encore la solution la plus écolo et la plus efficace. Mais j'ai pas de remède. Et puis les pièges dont il a parlé, qui peuvent aussi bien marcher. Le problème, c'est quand elles sont effectivement dans les maisons, parce que ce que vous décrivez, c'est vraisemblablement des fourmilières qui sont installées dans les maisons. Mais je vais vous dire, j'ai eu ça il y a une dizaine de jours chez moi.
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous leur avez crié dessus?
On a beaucoup lavé, donc c'est pareil, on a lavé avec de l'eau très chaude. J'ai mis un petit coup de nettoyeur vapeur. Ça aussi, dans les endroits où vous voyez les pistes, si j'ose dire, arriver, coup de nettoyeur vapeur, elle n'aime quand même pas la...
Oui, c'est pas ce qu'elle préfère.
Voilà.
Bon, très bien. Merci beaucoup Yves. On enchaîne tout de suite avec le conseil de Christian Pessé.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pessé.
Elle est belle, tellement, tellement, tellement belle.
La cabane.
Comme le matin.
Au fond du jardin.
La cabane au fond du jardin.
Vous avez une cabane au fond du jardin ou pas, Christian?
Non, j'ai pas de cabane au fond du jardin.
Pourtant, vous avez un jardin.
Ah, j'ai un jardin.
Qui a un fond, forcément.
Un fond. Mais
il n'y a pas de cabane.
Il n'y a pas de cabane, non.
Bon.
Mais vous savez que la cabane, il blague là, mais évidemment. Mais la cabane au fond du jardin qui était les toilettes.
Mais oui.
Il n'y a pas si longtemps qu'à la campagne, c'était la règle, quoi. Moi, quand j'étais gamin, je me souviens, j'ai des cousins, à l'époque en Normandie déjà. J'étais terrorisé, moi, le Parisien, arrivé et allait être obligé d'aller faire ses besoins au fond du jardin avec des araignées partout.
Oh mon Dieu. Surtout la nuit.
C'était
effrayant. Mais voilà.
Mais voilà.
Alors, on va
encore peut-être quand même dans quelques campagnes.
On va évoquer les abris de jardin.
Oui, alors les abris de jardin.
Comment choisir? Et puis surtout, est-ce qu'on a le droit d'installer un abri de jardin dans sa maison?
C'est le grand moment puisque on redécouvre le jardin, on y travaille, il y a besoin d'y mettre des outils, des équipements. Bon, alors c'est l'abri classique, c'est le 1m50 sur 1m50, c'est en panneau ou en lame de bois à emboîter, ça fait environ 2 mètres de haut. une toiture avec un pan incliné, du panneau avec dessus du feutre bitumineux ou de la plaque ondulée. Bon, c'est pas très très esthétique. Là, il y a un point important à souligner, c'est la nécessité d'avoir un plancher, parce que sinon on n'a pas de plancher, et faire en sorte que l'abri de jardin ne repose pas directement sur le sol. Moi, il y a quelques années, dans une maison précédente, j'en avais un d'abri de jardin, et je l'avais posé sur des parpaings. C'est-à-dire qu'on met des parpaings au sol, hein, on les pose à plat, et puis dessus, on construit son abri de jardin. Ça permet de le ventiler et d'éviter donc le pourrissement par capillarité. Alors, tous les autres modèles d'abri de jardin qui finissent par être parfois de véritables chalets dérivent de ce modèle. Certains ressemblent à de véritables extensions qui font près de 20 mètres carrés. On va voir pourquoi 20 mètres carrés, parce que c'est une limite administrative. Voilà. Alors, les matériaux, c'est le bois. Ce sont donc des lames qui s'enfilent sur des montants qui se superposent généralement, mais il y a aussi aujourd'hui des abris en matière plastique, le PVC, le polyéthylène, le composite, il y a même l'acier et puis l'aluminium. Ce sont des matériaux solides, évidemment, qui ont l'avantage d'être sans entretien et imputrescibles. Ça va de soi, mais ça n'a plus tout à fait le charme de l'abri de jardin façon chalet. Alors, quel que soit l'abri, même de petite dimension, il faut évidemment se demander si on a le droit de l'installer. C'est la question que vous posiez, François, il y a quelques instants. Le principe général, je rappelais les principes. Le principe général, c'est jusqu'à 5 mètres carrés et dans une hauteur classique. La règle dit jusqu'à 12 mètres de haut. C'est rare qu'on ait quand même un abri de jardin de 12 mètres. Mais en tout cas, prenons la surface au sol. Donc, c'est 5 mètres carrés. Il n'y a pas d'autorisation administrative, c'est-à-dire pas de déclaration de travaux à demander. De 5 mètres carrés à moins de 20 mètres carrés, c'est une déclaration préalable de travaux. Mais a priori, il n'y a pas besoin de permis de construire. Au-delà de 20 mètres carrés, il faut un permis de construire. Mais attention, attention. Si vous êtes en secteur sauvegardé, par exemple, dans le périmètre d'un monument historique, il faut une autorisation de travaux, même en dessous de 5 mètres carrés. Même en dessous de 5 mètres carrés. Et il faut même généralement un permis de construire, voire une nécessité de s'adapter au site. Enfin, c'est un peu compliqué. Alors, certaines communes ont pris en plus des mesures plus restrictives, certaines même interdisent purement et simplement les abris de jardin. Donc il faut se renseigner. Généralement, c'est inscrit dans le PLU, vous savez, le plan local d'urbanisme. Alors je dirais même quand on va avoir un petit abri dans moins de 5 mètres carrés, etc. C'est pas mal d'aller au service de l'urbanisme de la mairie pour se renseigner et savoir ce qui va être possible. Alors, pour tout abri de plus de 5 mètres carrés, il y a une taxe aujourd'hui, une taxe d'aménagement. Bien sûr, on n'oublie pas. Alors ça, on le dit pas.
On peut l'oublier
si on ne voit pas de la route. Je n'ai rien dit, hein, évidemment, ou de la voie publique.
Si c'est au fond du jardin.
Au fond du jardin.
On la voit pas.
Mais la taxe d'aménagement, ce que les vendeurs oublient souvent de préciser, c'est comme pour les piscines. On pourra en parler tout à l'heure. Elle n'est pas anodine. Elle est de 759 euros le mètre carré hors de l'Île-de-France, et en Île-de-France, 860
euros. Non, c'est pas vrai.
Le mètre carré. Elle peut être appliquée en plus à tous les abris, même moins de 5 mètres carrés, tous les abris de plus de, cette fois, 1,80 m de hauteur. Là, c'est plus les 12 mètres. Hein. Donc, on s'en rend compte que ça commence à pouvoir faire cher. Alors, certaines communes ont dérogé à ce principe. C'est-à-dire, il y a des communes où la ville a décidé, non, ça va, on va pas taxer. Mais donc, là encore, il faut se renseigner. Problème aussi qui est souvent posé, c'est l'adossement au mur. Alors, le principe, il est simple. Vous pouvez adosser votre abri si le mur est mitoyen, mais vous ne pouvez pas le faire si le mur appartient à votre voisin. Alors, la question est de savoir, est-ce que votre mur, il est mitoyen ou il l'est pas? Et puis, maintenant, tous aux abris.
Oh, bravo. Celle-là, on l'attendait pas, en plus, ça. Bravo, merci. Intéressant ce sujet des abris de jardin. Hein.
Oui, je pense qu'on fera un sujet plein là-dessus.
Bien sûr. Christian va revenir dans un instant, mais auparavant, dans ce rendez-vous maison sur RMC, encore un cadeau.
Et oui, après le barbecue chez Patrick Miolan, chez Christian PC, je vous offre, écoutez bien, le cook expert de Magimix. Ça tombe bien, la semaine prochaine, c'est la fête des mères. C'est un robot multi-cuiseur, multifonction, simple à utiliser pour faire des plats maison sains, gourmands, sans effort, de l'entrée au dessert. En plus, il y a 1300 recettes sur l'appli Magimix. Autant vous dire que là, vous avez de quoi faire plaisir pendant un bon moment. Et pour gagner votre cook expert donc, de Magimix, vous nous envoyez maison par SMS au 732-16. Au 732-16, vous envoyez maison et vous participez automatiquement au tirage au sort. On revient dans un instant et on s'intéressera à nos bassins et à nos petites piscines avec nos invités. Vos questions sur ce sujet, 32-16 ou l'appli RMC. Direct Studio, à tout de suite.
RMC, 7h-8h, votre maison, François Sorel,
Christian PC.
À la piscine, ou dans l'eau petits et grands voisines, à la piscine, ça se devine, on est bien mieux que dans une bassine.
Alors, qui chante cette chanson qui, à mon avis, date de Mathusalem? Non, c'est pas trop. Hein.
Alors là, je n'ai aucune idée d'habitude.
Oui, d'habitude, vous êtes.
C'est assez incollable, mais là, vous êtes, à mon avis, ça doit.
Le Wikipédia de la musique. Oh, là, vous avez, ça vous, ouais, vous séchez. Là.
Non, oui, je
suis quand même embêtant pour la piscine.
Pour la piscine, oui.
Alors, à 7h28 sur RMC, le retour de ce week-end des experts maison. Cette petite musique entraînante, lancinante, bien sûr, pour annoncer notre sujet. Petit bassin et petite piscine, Christian.
Oui.
C'est vrai que là, en plus, le temps est formidable. Hein. Là, tout match, comme on dit, voilà. On a envie de se rafraîchir. Et on n'a pas forcément ni la place, ni les moyens d'avoir une grande piscine. Un petit bassin peut faire l'affaire.
Voilà, alors il y a les petits bassins, il y a les... Petite pataugeoire, on va dire, hein, on va voir ça tout de suite. Avec Joël Pulinx, bonjour.
Bonjour.
Joël, vous êtes délégué général de la FPP, la Fédération des professionnels de la piscine et du spa, et vous êtes porteuse de la marque Propiscine, c'est ça?
Alors, Propiscine, c'est un label, ça n'est pas une marque.
Oui.
Propiscine, c'est un label, ça n'est pas une marque, mais néanmoins, c'est délivré effectivement par la Fédération des professionnels de la piscine. Vous avez trois niveaux pour ce label. Le niveau engagé sur la base d'une charte, ensuite le niveau qualifié sur la base d'une qualification et le niveau certifié sur la base d'une certification de service.
Voilà, moi je défends toujours ces labels ou certifications. Vous savez, mon combat pour le RGE, par exemple, dans le domaine de la construction, le reconnu garant de l'environnement, même si c'est pas... toujours parfait, mais c'est toujours
c'est rassurant. On est d'accord.
Et puis ça répond quand même une réalité, c'est-à-dire un certain nombre de critères incontournables.
Vos questions sur les petits bassins, les petites piscines, dès maintenant 32-16, vous pouvez nous joindre ou bien l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone.
Alors la piscine, le bassin, parce qu'on va voir peut-être le distinguo que vous allez faire. Bon, aujourd'hui les piscines gonflables, les piscines en panneaux de petites dimensions, c'est en train d'exploser. Mais je crois, comme le reste d'ailleurs du marché, ça s'arrache dans les grandes surfaces. Est-ce que un petit bassin de type gonflable de quelques mètres carrés, est-ce que ça entre véritablement dans la catégorie des piscines? C'est quoi la limite entre les deux?
Alors la limite qui va définir une piscine, c'est en fait le système de filtration et de désinfection de l'eau. Puisque dans la définition d'une piscine, vous avez l'eau désinfectée, désinfectante, recyclée, renouvelée. Donc effectivement, à partir du moment où vous avez un système de filtration, on peut appeler ça une piscine.
Voilà, donc il y a des petits bassins gonflables qui maintenant, je pense à la marque référente, c'est chez Intex, hein, qui pratiquement, j'ai l'impression que c'est la quasi-totalité du marché couvert. Ils sont vendus avec un filtre électrique, avec aussi des possibilités de désinfection. Donc on peut dire que ça rentre dans que c'est une vraie piscine.
Oui, ce sont de vraies piscines, quelle que soit la marque d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs marques de piscines hors sol qui permettent effectivement d'épurer l'eau ou de...
Il y en a quoi? Il y en a deux, non?
Oh non, il y en a un peu plus que ça, oui, tout à fait, il y en a plus que ça. Il y a deux leaders et puis ensuite, tout dépend de quel niveau de piscine hors sol on parle, puisque effectivement, il y a de l'entrée de gamme à partir de 300-400 euros. Et puis ensuite, vous pouvez aller dans les piscines hors sol jusqu'à 4-5 000 euros, selon leur niveau d'équipement.
D'accord.
Et aujourd'hui, les piscines hors sol ont tendance quand même à monter aussi en gamme, parce que la demande du consommateur aujourd'hui, que ce soit en piscine enterrée ou en piscine hors sol, c'est d'avoir des bassins plus petits, mais beaucoup mieux équipés. Mmh. Et donc, c'est le confort d'utilisation qui va faire que le consommateur va se tourner vers une piscine ou vers une autre, en fonction de son budget, bien entendu.
Quand vous dites mieux équipé, c'est quoi, justement, les équipements que les gens demandent?
Alors, en général, c'est du confort de baignade, c'est-à-dire parfois une eau qui soit chauffée, une eau qui soit traitée automatiquement, etc. Alors, dans les piscines hors sol, c'est plus difficile de traiter automatiquement. Néanmoins, vous avez maintenant des systèmes qui vous permettent de mettre le galet de chlore dans un système qui va le diffuser dans l'eau. Vous avez effectivement, alors sur les bassins petits et enterrés, à ce moment-là, vous avez aussi une couverture de piscine, vous avez la pompe à chaleur, vous avez parfois des escaliers pour entrer dans l'eau, ce qui est plus confortable parfois qu'une échelle, etc. Donc, globalement, les consommateurs ont envie de confort au sein de leur bassin. Et aussi, la première raison d'acheter une piscine, qu'elle soit hors sol ou enterrée, c'est le bonheur en famille, parce que la piscine, c'est le placement bonheur. Quand vous achetez une piscine, vous investissez dans votre patrimoine immobilier. Mmh. Ça n'est pas de l'argent qui est dilapidé ou qui ne va pas se retrouver.
Oui, ça valorise
c'est un produit
le bien.
Durable. Tout à fait.
Christian, ça valorise un bien, une piscine.
Ça valorise nettement, nettement un bien. Alors évidemment, plus on est au sud, plus ça le valorise parce que c'est presque incontournable. On n'imagine plus.
Bah, si on a une maison dans le sud sans piscine, c'est compliqué.
Si on est dans le Pas-de-Calais, c'est peut-être un petit peu moins évident. Mais malgré tout, oui, ça valorise indiscutablement. Mais là, si on parle des petits bassins, on parle aussi des bassins démontables, des gonflables. Là, c'est un petit peu différent, quoi.
Oui, voilà, c'est du, on va dire, du saisonnier, en quelque sorte.
Oui, et parfois, c'est le premier pas vers l'achat ensuite d'une piscine enterrée.
Bien sûr. Et oui, parce qu'on se rend compte que, ben, on veut mieux, plus confortable, etc. Nous avons Eric au 32-16. Bonjour, Eric.
Oui, bonjour Christian.
Bonjour Eric.
Alors Eric, parlez bien dans le téléphone, pas d'ampli et à côté d'une fenêtre pour qu'on vous entende bien s'il vous plaît. J'ai l'impression que le réseau est pas terrible.
Oh, oui, j'écoute. Vous m'entendez bien là?
Oui, c'est pas génial, mais on va y aller.
Vous n'êtes pas en main libre, non?
Non.
Là, bon d'accord, allez-y.
Voilà. Donc, je me pose la question du type de piscine. Je tergiverse depuis un an. Sur une piscine de 4-6 mètres de long par 2,50 m, 3,50 m de large. Ce que je redoute, comme je pense beaucoup de gens qui ont ce projet, c'est des fuites. Hein. On a tous entendu des gens qui ont des problèmes de piscine avec des fuites, des procès avec des constructeurs. Donc voilà. Alors je me suis demandé si je passe sur le modèle piscine à coque, qui a priori évite un certain nombre de problèmes de fuite. Déjà, est-ce que c'est une bonne solution? Et puis, moi, j'ai un problème d'écoulement. Donc, l'évacuation est à 1 mètre. Et une piscine de ce type-là, c'est environ 1,50 m de profond. Donc, comment faire? Et la deuxième question, c'était si je passe sur une piscine... avec une petite piscine en kit fixée au sol. Comment ça se passe avec la dilatation, puisqu'on nous dit qu'il faut une dalle? Alors, si on fixe dessus, la dalle se dilate. Comment ça se passe au niveau de l'étanchéité?
Alors, je pense que votre préoccupation d'étanchéité n'est pas la problématique majeure en matière de piscine. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir ce problème. Enfin, je ne sais pas ce que Joël va nous dire, mais une coque, ça ne fuit jamais. Par exemple, un liner, ça fuit quand même rarement. Donc, c'est pas ça la vraie problématique des piscines aujourd'hui.
Non, en fait, c'est le savoir-faire de l'installateur, que ce soit une coque ou un liner, c'est le savoir-faire de l'installateur qui va vous poser correctement vos pièces à sceller. Et l'étanchéité de votre bassin, elle fait partie du fonctionnement normal d'un bassin. Donc, si vous installez une piscine par un vrai professionnel de la piscine, vous n'aurez pas spécialement de problème et vous aurez en plus une garantie décennale.
Oui, donc la garantie décennale, en plus la dommage ouvrage, parce que ça va ensemble, et donc vous n'avez pas la dommage ouvrage, c'est l'assurance dommage ouvrage, hein, c'est ce qui vous permet d'éviter d'avoir des complications avec l'installateur, surtout s'il a disparu. Donc ça, c'est assez essentiel. L'histoire de la coque, alors, je ne sais pas ce que je voulais dire tellement notre auditeur sur la dilatation, parce que une dalle en béton, c'est une dalle en béton, ça se dilate pas, hein, ça bouge pas. En revanche, je sais qu'il y a eu des difficultés dans certains endroits où la nappe phréatique étant très proche, on a vu des coques presque remonter. J'avais lu ça il y a quelque temps. C'est vraiment, il faut faire un bon radis en dessous, c'est ça?
Alors effectivement, quand il y a des nappes phréatiques en dessous, quel que soit le type de construction de piscine, de toute façon, il faut faire très attention, il faut que ce soit bien drainé. Et puis aussi, il faut faire appel, là aussi, à un bon professionnel qui va faire tout le nécessaire, que ce soit une coque ou un autre bassin, pour assurer la fixation correcte du bassin. Et à la limite, s'il va installer une coque, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il va faire attention de bien avoir une ceinture béton par-dessus, etc. Et d'avoir bien le lit de gravier drainant en dessous. Mais là, une fois encore, c'est vraiment le savoir-faire du professionnel qui va faire que la piscine, quelle que soit sa structure, soit correctement implantée. C'est un métier. Et on va pouvoir peut-être prévoir un puits de décompression, effectivement, pour
éviter justement ce phénomène.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut revenir, puisqu'on était au départ sur les petits bassins, sur les contraintes administratives, à partir de quel moment il y en a, quelles sont les règles, un petit peu comme je l'ai fait tout à l'heure pour l'abri de jardin. Est-ce que vous pouvez, Joël, nous rappeler ça, parce que je crois que c'est essentiel quand même.
Oui, alors en dessous de 10 mètres carrés de surface d'eau, il n'y a pas de déclaration de travaux, sauf si on était en secteur sauvegardé. Que ce soit une piscine enterrée ou une piscine hors sol, si on la garde toute l'année sur le terrain. Si on a une piscine hors sol qu'on va retirer au bout de 3 mois, on n'a pas de déclaration particulière.
Il n'y a rien à faire. C'est par exemple les grands bassins gonflables ou avec des panneaux alu qui se démontent, ça, il n'y a rien.
Il n'y a rien si ça ne reste pas plus de 3 mois de l'année en place.
D'accord.
Et en revanche, à partir du moment où on va implanter une piscine, même si on ne fait pas de déclaration de travaux, il faut respecter quand même ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire ne pas se mettre en fonction de la limite de propriété, là où ce serait interdit, etc. Il faut quand même faire attention à l'implantation, à quel endroit on l'implante. Ensuite, une piscine entre 10 mètres carrés et 100 mètres carrés de surface d'eau, ce sera une déclaration de travaux, sauf si elle a un abri haut, auquel cas on va passer au permis de construire. Et au-delà de 100 mètres carrés de surface d'eau, ce sera un permis de construire.
D'accord. Ah oui, 100 mètres carrés, ça commence à être costaud quand même.
Oh,
non, ça va vite.
Vous faites le calcul, 10 sur 10. Hein,
c'est déjà une piscine sympathique.
C'est déjà une piscine sympathique.
Teddy est avec nous au 32-16, Christian. Bonjour Teddy.
Oui, bonjour.
Bienvenue bonjour. Teddy, on vous
Merci
écoute.
Beaucoup.
On vous
Alors,
écoute.
Voilà, je vous appelais car en fait j'avais pensé au début mettre une piscine comme vous parliez, Intex. Mais suite à certains problèmes que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, j'ai renoncé. Et j'aimerais savoir, en fait, quelle piscine vous pouvez me conseiller, genre dans les 3 mètres sur 2,50 mètres à peu près, en hors-sol. Est-ce que je dois faire une dalle en béton, etc., en fait.
D'accord. Donc là, vous réfléchissez à du gonflable et puis à du panneau. Alors tout à l'heure, on va avoir aussi en ligne, mais on peut le prendre.
Il est là, il est avec nous, Arthur Choux.
Arthur Choux, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes co-dirigeant de Piscinelle et justement, vous êtes spécialiste vous en faites certainement des grands dossiers, mais des petites piscines hors sol. Alors, dans ce cas-là, en y mettant peut-être un peu plus cher quand même, j'imagine, qu'un bassin gonflable, c'est quoi, vous, vos préconisations, les types de piscines? J'ai vu que vous étiez spécialiste dans le bois, dans l'alu également.
Oui, effectivement, alors. On a plusieurs types de produits et comme l'a rappelé Joël Pulinx de la Fédération, il y a différents niveaux de piscine hors sol. Hein. On a du Intex effectivement. Nous on est plutôt sur une utilisation de matériaux qui sont haut de gamme. Et au départ, on vient de l'abri de jardin pour reprendre un peu le début de votre émission. Oui. C'est rigolo. Et puis on a conçu la piscine en bois il y a 25 ans maintenant. Donc on a une grande partie de la gamme qui est en ossature bois. Et effectivement, comme vous venez de le dire, la même chose est possible en aluminium, hein, pour répondre à votre auditeur. Il y a plusieurs techniques possibles, en tout cas chez nous.
Quand vous parlez petit bassin, parce que là c'est même très petit bassin, lorsqu'on pense à des piscines gonflables ou autres, donc chez vous, un très petit bassin, c'est quoi comme taille?
Alors nous, la première piscine à la gamme, elle fait 5 mètres carrés.
Ah oui.
Et on a une dizaine de modèles qui sont entre 5 et 10 mètres carrés. Et après, en fait, nous, on fait du sur-mesure. Donc, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais voilà, chez nous, s'il y a une contrainte particulière liée au terrain d'un client, on peut s'adapter et faire à 2 cm près, en gros.
Et le budget, c'est combien à peu près, justement, pour les piscines?
Alors, le budget, pour 10 mètres carrés, on va être aux alentours de 8 000 euros, c'est-à-dire la piscine qui va être fonctionnelle, hein, c'est-à-dire comme le rappelait Joël, avec une filtration, Joël Pulin, qui est de la fédération, avec une filtration complète. Oui. Ensuite, on a des modèles qui sont plus petits et qui vont partir...
C'est ça, dans les 6 mètres carrés à peu près, 3 mètres 50 sur
6 mètres carrés, on va être autour des 6 500 euros.
Voilà. D'accord. Okay. Ouais, c'est quand même
une structure bois, etc. Alors là, voilà, ça c'est une ossature bois. Alors c'est du pin rouge du Nord traité autoclave 4. Donc, chez nous en tout cas, et c'est important dans votre achat de vérifier la qualité des matériaux utilisés pour la pérennité de votre projet, parce que, comme on l'a dit, c'est un investissement. Vous faites pas ça pour refaire votre piscine dans 3 ans ou dans 5 ans.
Ouais.
Donc, il est important de veiller dans le choix de votre fabricant.
Le traitement de l'eau, tout ça, quoi.
Voilà, bah surtout au traitement des matériaux déjà, et ensuite le traitement de l'eau, c'est un deuxième sujet où en effet il va falloir se préoccuper de ce sujet, mais d'abord effectivement les matériaux. Donc là effectivement le prix que je vous ai communiqué, c'est avec une piscine à ossature bois, pin rouge du Nord, traité autoclave 4. Vérifiez bien ces informations, c'est important.
Et c'est de la piscine là qui n'est pas démontable.
Alors, elle est démontable, mais...
Vous n'avez pas démonté tous les 3 mois, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on vous préconise fortement de faire une dalle béton, une petite dalle propre pour asseoir la piscine, et c'est pas quelque chose que vous allez démonter tous les 3 mois.
Oui, c'est
donc,
sûr.
Donc, on entrera sous le coup de la fiscalité des piscines, etc.
Oui. Alors, moi, je voudrais revenir sur les petits bassins gonflables, hein, puisque malgré tout, c'est quand même une grosse part du marché aujourd'hui. Vous l'avez dit à propos de vos petites piscines, Arthur Schulz, il faut mettre ça sur quelque chose de solide. Hein. D'ailleurs, dans toute la mesure du possible, si on peut faire une petite dalle, une semelle, hein, même, c'est pas, on va pas mettre 20 cm de béton. Mais pour tous ceux qui vont mettre là ce week-end une piscine sur la pelouse, on va pas le coup de cœur. En grande surface, on achète son bassin, on le met
sur la pelouse.
Ah, oui, non, on le pose pas sur la pelouse parce que il va falloir décaper la pelouse. Il va falloir faire attention qu'il n'y ait pas de cailloux. Mmh. Parce que si vous avez des cailloux, le moindre caillou, ça va percer la piscine.
Bien sûr.
Alors après,
avec le poids de l'eau en plus.
Évidemment. Et puis les racines. Mmh. Non, c'est que si vous avez à côté d'un arbre des racines qui passent et qui percent votre bassin, bye bye. C'est quand même embêtant. Et puis il y a quand même une grosse quantité d'eau à mettre dedans. Faut y penser.
Et oui. Hein? Et ça coûte de l'argent, ça.
Ça coûte de l'argent.
Voilà. Et puis quand on a un petit bassin comme ça gonflable, on peut traiter l'eau aussi, ou est-ce que
bien sûr,
on est obligé?
Pas de souci.
Comment ça se passe? On peut pas remplir son bassin et ne pas traiter l'eau, non?
Ah non, l'eau doit être traitée parce que sinon, par définition, la pollution, l'air extérieur et surtout les baigneurs amènent de la pollution.
Mais il faut avoir forcément un système à filtration un traitement de l'eau suffit?
Non, filtration. Hein.
Il faut, alors, en général, dans une piscine, la filtration, c'est 80% de la qualité de l'eau et la désinfection, c'est à peu près 20% de la qualité de l'eau. Et même sur les petites piscines hors sol gonflables, hein, vous avez ce qu'on appelle des petits épurateurs qu'on met à côté du bassin, qui vont filtrer l'eau avec une petite filtration à cartouche, et vous avez un petit diffuseur de galets de chlore que vous mettez aussi sur la piscine.
Il faut faire attention justement à prendre des piscines, des bassins qui ont justement la possibilité de raccordement.
D'accord.
Du système de filtration, parce que c'est quand même indispensable.
Merci beaucoup Arthur Schulz et merci à Joël Pulinx. Merci à tous les deux. Christian, on revient dans un instant, 8h moins le quart sur RMC. On enchaîne avec vos questions et puis votre coup de cœur aussi.
RMC. Jusqu'à 8h. Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
Voilà, merci en tout cas pour toutes vos questions sur les petits bassins, les piscines. On voit que Christian, c'est un sujet qui vous intéresse. On y reviendra sans aucun doute. Rapidement, Christian, la sécurité des piscines. Alors même si on est sur des petits bassins, malgré tout, les accidents peuvent arriver. Hein.
Alors là, effectivement, parce que petit, on ne sait plus très bien quelle est forcément la limite. C'est quoi, Joël? C'est d'abord la surveillance visuelle. Hein. Ne jamais laisser.
Évidemment, on ne laisse jamais un enfant seul sans surveillance.
Voilà.
Et sur les piscines hors sol, on recommande d'avoir une échelle sécurisée ou sécurisable sur laquelle on peut retirer les barreaux des échelles à l'extérieur de façon à ce que les enfants puissent pas aller dans le bassin.
Ah oui, d'accord. Alarme, là, non, c'est pas nécessaire.
Alors, alarme plus délicat sur une piscine hors sol. En revanche, vous avez aussi des couvertures qui permettent de couvrir le bassin et de le fermer totalement.
Très bien.
Très bien. Allez, on enchaîne avec un tout autre sujet. Après les piscines, on va parler cheminée, Christian. Comme quoi, bien. On passe, j'allais dire, du coq à l'âne. Non, mais pas loin. Catherine, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour,
merci
Catherine.
Merci pour mon appel et
vous
merci pour vos émissions qui sont toujours passionnantes.
Merci.
Même quand on n'a pas de piscine ou pas de tout ce que vous parlez, c'est très intéressant.
Bon, en revanche, vous avez une cheminée.
J'ai un, une cheminée, c'est une maison moderne, hein, genre préfabriquée d'autrefois. Oui. Elle doit avoir une cinquantaine d'années. Elle a toujours bien tiré la cheminée et depuis quelque temps, on ne peut plus l'allumer parce qu'elle refoule et on ne comprend pas très bien pourquoi. Est-ce que ça peut être un lit ou autre chose ?
Alors, foyer ouvert ? Ou vous avez un insert, c'est un foyer ouvert.
Oui, oui.
Bon, donc vous avez un foyer ouvert, vous avez une modification apparemment du tirage. Alors les questions qu'il faut se poser, c'est d'où vient la modification. Premièrement, est-ce que vous n'avez pas installé ou fait ou fonctionné davantage votre VMC ?
Je n'ai pas de VMC.
Il n'y a pas de VMC. Premièrement, non. On l'a éliminé. Je vais faire, chez Christian Riquet qui est pas très loin, je vais faire un petit peu comme les médecins dans les diagnostics. Oui. Est-ce que vous avez changé votre hôte de cuisine?
Non, c'est dans le séjour.
Non, mais ça, peu importe. Est-ce que vous n'avez pas changé votre hôte de cuisine?
On ouvre la fenêtre.
On ouvre la fenêtre, bah oui, c'est bien parce que dans certains cas, on installe une hotte de cuisine qui est tellement puissante qu'elle met la maison en dépression et voilà. Que du coup,
la fumée sort.
La fumée rentre dans la maison parce que justement, il n'y a plus de tirage. Donc, est-ce que vous avez un environnement qui a évolué? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une maison qui s'est construite autour?
Non, pas du tout.
Bon, alors, est-ce que vous avez fait ramener votre cheminée récemment?
Oui, elle est. Je ne sais pas si c'est récent, mais elle est ramenée régulièrement tous les ans.
D'accord. Moi, à mon avis, c'est la grande période. Bah, vous avez un nid dans la cheminée. C'est la grande période de nidification. Vous voyez, là, les pigeons qui passent avec des branches dans le bec, tout ça. Si vous êtes un peu attentif, on y a été un peu plus en étant chez soi. Je pense que vous avez tout simplement un nid qui s'est mis sur votre cheminée.
Et ils arrivent à faire un nid. On m'en a parlé d'un nid, mais.
Ah, bah, si par exemple, vous avez.
Mettre un nid dans un tuyau de cheminée.
Ah, bah, si vous avez, par exemple, un corbeau, il vous met, il vous bouge complètement le tube. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez intervenir un rameneur, je pense, pour qu'il vérifie, comme on dit, la vacuité physique du conduit, c'est-à-dire le fait qu'il est vide. Parce que si aucun des facteurs que j'ai évoqués n'est en jeu, eh bien, ça ne peut être que le conduit qui est bouché. Donc, s'il est bouché.
J'ai des corbeaux, effectivement, qui viennent chez moi. Corbeaux, pigeons.
Voilà. Alors corbeaux, pigeons, parce que les petits oiseaux, ça n'a pas d'impact, mais corbeaux, pigeons. Alors, vous, ce que vous pouvez mettre dessus, c'est faire monter par votre fumiste, comme on disait autrefois, vous faites monter un chapeau de cheminée. Donc, d'une part, ça va.
Vous savez, il y a des petits piliers, quatre petits piliers et un truc plat.
Je vois tout à fait. Mais les corbeaux, ils apprécient beaucoup parce qu'en plus, ça leur fait une maison.
Hein. Et voilà, c'est ça. Hein. Donc, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un nid. Quoi.
Donc, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un nid. Je vois pas d'autres raisons, puisqu'il n'y a pas eu de facteur. Il y aurait eu une maison, par exemple, qui aurait été montée. Peut-être, est-ce que vous avez un arbre très proche qui aurait grandi?
Non, c'est même le contraire. On l'a coupé.
Parce qu'un arbre, par exemple, à moins de 8 mètres, ça aurait pu être de nature. Et il faut toujours que votre conduit de cheminée dépasse de 40 cm au-dessus du faîtage. Hein, ça, c'est une règle. Mais bon, je ne pense pas que votre cheminée, elle ait bougé, qu'elle ait grandi ou qu'elle ait rapetissé. Donc, effectivement, allez voir. À la campagne, avant, vous savez ce qu'on faisait, hein, on tirait un coup de chevrotine dans le conduit, comme ça, ça dégageait. Ça dégage, mais je ne vous le conseille pas.
Pas le 24
je
décembre.
Je ne vous le conseille pas. Non, le 24 décembre, non, parce que
non, parce que là,
shooter le Père Noël.
C'est embêtant quand même. Hein. Surtout si après il fait aïe ou ouïe comme ça et qu'il crie.
Effectivement.
Quoique si Christian Riquet n'est pas loin, il peut le soigner.
Bien sûr.
Christian Pesset, on va terminer avec votre coup de cœur. Et merci à Catherine pour son appel.
Mon coup de cœur, c'est pour le soutien du ministre du Logement, Julien de Normandie, à la construction bois. Alors, dans le cadre des discussions dont je vous ai déjà parlé sur la RE 2020, vous savez, c'est la réglementation environnementale qui va se substituer à la RT 2012 qui était simplement une réglementation thermique, dans cette grande discussion actuelle, les constructeurs bois sont aperçus que il y avait certains oublis et il y a même eu une question d'une sénatrice au gouvernement suite justement à l'inquiétude de ce monde de la construction qui avait noté la disparition dans le texte futur d'une disposition, je cite, favorable favorable au bois et aux produits biosourcés. Mmh. Donc, calcul des émissions des effets de serre des produits de construction. C'est un petit peu compliqué, mais donc il va y avoir beaucoup de prise en compte, notamment du bilan carbone. Le bois avait été un petit peu oublié. Alors, le ministre a corrigé la copie. C'est pas mal, je trouve, quand même, en ce moment. On voit que des choses sont parfois annoncées et le gouvernement n'hésite pas à revenir sur une perspective comme ça. Je trouve que c'est quand même à saluer. Alors, il a corrigé le tir concernant le bois. Il a rappelé son attachement au bois. Bah oui, parce que tout le monde ne le sait pas. Mais le ministre de Normandie est de formation un ingénieur des eaux et forêts. Donc, c'était la moindre des choses qu'il corrige le sujet. Donc, il a dit, promis juré, il a déclaré, je cite, « La RE 2020 doit être une occasion historique de faire en sorte que les matériaux biosourcés, dont le bois, aient plus de place dans la construction. Il a dit, je serai intransigeant là-dessus. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'attendre à une relance de la construction bois, qui, faut bien le dire, patine un peu en France, alors que c'est une excellente solution pour construire une maison. Il faut arrêter le syndrome des trois petits cochons et d'imaginer que ça brûle, que ça ne tient pas le coup, que ça ne tient pas au vent. C'est très, très bien, la construction bois.
Le bois qui patine, en plus, c'est parfait.
Bien sûr.
Sans vouloir, vous avez sorti un bon mot, mon cher Christian.
Vous n'aviez pas vu que c'était un bon mot.